Chers collègues, chers amis, j'ai parmi vous le sentiment réconfortant de me retrouver en quelque sorte à la maison. Je suis et je reste syndicaliste dans l'âme. Il est vrai que je fais un autre métier, mais je maintiens mon engagement social et politique aux côtés, au service des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Et je suis bien placée, là où je suis maintenant, pour savoir quel rôle irremplaçable assument nos syndicats et le SIB au premier rang dans notre vie politique. Et qu'est-ce que la politique, sinon l'organisation d'une meilleure vie commune pour tous les habitants de ce pays. Comme vous le voyez, chers camarades, je n'ai pas seulement gardé de bons souvenirs de mon activité à l'Union syndicale suisse, j'ai gardé beaucoup plus que cela, la fierté d'être syndicaliste. Pour nous toutes, pour nous tous, aujourd'hui, c'est un peu la fin du tunnel. La plus longue, la plus profonde aussi des crises économiques du XXe siècle est derrière nous. Sans méconnaître et sans vouloir oublier les drames qu'elle a causés, nous éprouvons un soulagement certain et je crois que nous pouvons même éprouver une certaine satisfaction. Car les institutions de l'État social, dans l'ensemble, ont tenu bon et ont rempli leur rôle. Grâce au filet de sécurité constitué par nos assurances sociales, la crise des années 90, et encore une fois, je le répète, elle était plus profonde et plus longue que celle de l'entre-deux-guerres, n'a pas joué le même rôle, n'a pas eu les mêmes effets dévastateurs que ce qu'on appelle la Grande Dépression. Les mécanismes institutionnels de la solidarité ont continué à fonctionner en dépit d'une situation économique dégradée. Et je dirais même que cette solidarité sociale a permis à la situation de ne pas se dégrader davantage. Mais il est clair qu'avec la crise économique, la situation politique aussi s'est aggravée et que les attaques frontales de la droite n'ont jamais manqué pour accabler notre système de sécurité sociale pendant toute cette période, notre État social a su résister. Mais cette résistance victorieuse n'est pas un cadeau du ciel. C'est le produit d'une lutte. Et les syndicats en général, et le SIB en particulier, en sont pour une bonne part les artisans. Tous les salariés de ce pays peuvent et doivent leur en être reconnaissants. Et moi aussi, chers collègues, je vous dis merci, merci du fond du cœur, parce que sans le soutien des syndicats, sans votre soutien, une politique de défense de l'État social n'a pas de sens et ne peut pas avoir d'efficacité. Et dans la tourmente, le SIB ne s'est pas replié, il ne s'est pas recroquevillé, bien au contraire. Vous avez mobilisé plus intensivement les salariés. Vous avez rappelé que le droit de coalition est un des droits fondamentaux de la personne en Suisse comme ailleurs, et que le combat pour la dignité humaine se déroule aussi à la place de travail, aussi aux côtés des collègues avec lesquels on travaille, aussi aux côtés des chômeurs que l'on veut le plus rapidement possible retrouver à nos côtés en emploi. Le mouvement syndical a donc vraiment toute sa raison d'être dans le combat pour la justice sociale. Et j'aimerais dire très clairement, la justice sociale, ce n'est jamais de la théorie, ce n'est jamais une préoccupation qui doit rester loin des gens, parce que c'est la vie même des travailleurs qui est en jeu. Le SIB vient de souligner avec force cette évidence que la justice sociale, c'est quelque chose de concret, de palpable, en publiant les résultats de l'étude conduite par Étienne Guberand et Massimo Uzel, deux chercheurs genevois, dont l'un d'ailleurs est décédé peu après ce travail. L'inégalité sociale, c'est une inégalité sociale devant la mort, devant l'invalidité, et cela personne ne peut l'accepter dans l'indifférence. On meurt d'autant plus tôt Et l'on est frappé d'invalidité d'autant plus souvent que l'on exerce une activité physiquement pénible. En raison de la dureté du travail dans le bâtiment, 4 ouvriers sur 10 sont éjectés du circuit productif avant l'âge de 65 ans pour cause d'invalidité. En raison de la dureté du travail, ce sont presque 28% des ouvriers d'usine qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Ces faits-là sont massifs. Et en tirer toutes les conclusions, c'est conduire une lutte complexe et de longue haleine, tant sur le plan syndical que sur le plan politique. Parmi les réponses possibles et nécessaires à cette inégalité sociale de base, il y a le développement de modèles permettant aux travailleurs les plus exposés physiquement de prendre une retraite anticipée. La flexibilité de la retraite, à mes yeux, fait partie du contrat social, parce qu'autrement on arriverait à cette situation absurde qu'une assurance sociale, l'AVS, à laquelle nous sommes tous attachés à cause de son caractère redistributeur, lorsqu'on va regarder ensuite quelle est la durée de vie, quelle est la durée de retraite des différents groupes professionnels, apparaîtrait comme beaucoup moins redistributeur, peut-être même, hélas, redistributeur à rebours, alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Comme vous le savez, le Conseil fédéral a élaboré pour la 11e révision de l'AVS une proposition qui fait un pas, un premier pas dans cette direction. Et le débat est ouvert aujourd'hui. Il a lieu. Il a lieu au Parlement. Et j'espère qu'une solution acceptable finira par sortir à la fois de ces débats parlementaires et des campagnes politiques qui ont lieu dans l'ensemble du pays. Et je sais que je peux alors appuyer mon travail sur votre action syndicale déterminée. La vie même des travailleurs dépend aussi de leur accès à des soins médicaux de haute qualité. Et c'est pourquoi je tiens à rappeler ici que notre loi sur l'assurance maladie garantit à tous, indépendamment de l'âge, du sexe, du revenu et de l'état de santé, les soins nécessaires. Notre nouvelle loi, en vigueur depuis 1996 seulement, constitue un immense progrès dans la lutte contre l'inégalité face à la souffrance et à la maladie. Et nous sommes sur ce plan-là, si l'on considère l'accès aux soins et la qualité des soins, un des pays qui a réalisé le plus au monde. C'est pourquoi vous me permettrez, chers collègues, de vous rappeler qu'il y a une votation, de rappeler aux camarades, et vous savez que je le regrette, à la sélection de camarades qui ont le droit de vote. Pour les autres, ils le savent aussi et ils en discutent, mais ils ne sont pas appelés, hélas, aux urnes. Un non convaincu doit être opposé à l'initiative d'Ener lors du prochain week-end. Cette initiative est effectivement un attrape-nigaud. Elle entend effectivement réserver aux seuls nantis et aux assureurs privés l'accès général au système de soins. Elle est effectivement un retour en arrière qui priverait une partie très importante de la population de cette médecine à laquelle aujourd'hui la LAMAL donne droit. Mais il existe aussi des réponses proprement syndicales à l'inégalité devant la maladie et la mort. Et là, tous les syndicalistes, quel que soit leur passeport, sont également appelés à se mobiliser. Ces réponses peuvent être modulées différemment d'une branche à l'autre, parce que les conditions de travail ne sont pas identiques partout. Mais ce qui est vrai de manière générale, ce qui vaut pour l'ensemble des branches et des secteurs d'activité, c'est la responsabilité des employeurs face à des conditions de travail insalubres et face à des risques professionnels exorbitants. Mais des salaires insuffisants sont tout aussi importants pour assurer le bien-être, la santé, l'alimentation, l'éducation des enfants. D'où l'importance de mener la lutte contre l'inégalité dans le cadre des conventions collectives. Cette dimension contractuelle de la solidarité tombe d'ailleurs sous le sens. Finalement, c'est la redistribution primaire, celle qui s'opère au niveau du salaire, qui doit se faire davantage en faveur des travailleuses et des travailleurs et qui doit contribuer en premier lieu à la croissance de l'économie et du bien-être général. Au passage, en effet, les hausses de salaire améliorent mécaniquement la situation financière des assurances sociales. Le SIB, qui a remporté sur ce front de récents succès, peut donc se sentir à bon droit encouragé à poursuivre des revendications salariales. Durant les années de crise que nous venons de traverser, les gains en capital se sont multipliés et les revenus du travail ont stagné. Et avec eux, bien sûr, la consommation des ménages, ce qui a contribué à aggraver la récession. Vous n'avez pas oublié cela. Vous savez que votre exigence de rattrapage est parfaitement fondée. Vous n'avez pas eu besoin d'attendre que le directeur de l'Union patronale clame lui aussi qu'il est temps de remercier les travailleurs et vous saurez le rappeler à cette promesse, vous le prendrez au mot. Contre l'injustice et la pauvreté, en effet, il n'y a pas d'arme plus efficace que des salaires corrects, des salaires suffisants. Et vous avez lancé ce débat sur les bas salaires. Solidement argumenté et documenté. Il y a des années maintenant que le nombre de ce que l'on appelle les working poor, les gens qui travaillent à plein temps et qui n'arrivent pas, avec le salaire qu'ils reçoivent, à vivre dignement, que le nombre de ces working poor augmente dans notre pays. On estime environ à 250 000 personnes au bas mot celles qui doivent vivre avec un salaire inférieur à 3 000 francs. Dans l'industrie hôtelière, un tiers des salaires versés n'atteint pas ce seuil. Je le dis tout net, il est inacceptable que des entreprises, voire des branches professionnelles entières, se déchargent sur l'État, via l'aide sociale, d'une partie de leurs coûts salariaux. Nous devons remettre ces entrepreneurs face à leurs responsabilités sociales. Nous devons rappeler ces branches à une juste notion de la liberté économique. Et je rejette formellement la théorie selon laquelle il reviendrait à l'État de compenser la faiblesse des salaires, soit par des versements complémentaires, soit par des artifices fiscaux du type impôt négatif. Tout travail fourni doit être payé par l'économie à sa pleine valeur. Et il n'appartient pas à l'État de se substituer aux entreprises pour cela. Et je suis reconnaissante aux syndicats, et en particulier au SIB, de leur engagement rigoureux contre les bas salaires. Je salue leurs efforts pour améliorer le taux de syndicalisation dans les branches où des conditions de travail et de salaire précaires sont la règle, hélas plutôt que l'exception. Car il n'est pas de meilleure défense contre la nouvelle pauvreté qu'un syndicalisme actif et bien organisé. Et j'aimerais ajouter aussi dans cette lutte contre les bas salaires, les succès que vous avez remportés et qui serviront à l'ensemble de ce pays quant à l'introduction de la libre circulation avec l'Union européenne et les mesures d'accompagnement de cette ouverture des frontières. Effectivement, c'est à vous que ce pays doit des instruments, et je sais que vous saurez les utiliser, qui permettront d'éviter dans ce domaine toute sous-enchère salariale. Et vous comprendrez aussi que je tienne à rappeler ici, parce que cela fait bien partie du même effort, la lutte infatigable que nous menons dans ce pays pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et j'ai été réjouie de voir que dans cette salle, les délégués du SIB n'étaient plus aussi exclusivement masculins qu'ils l'étaient au moment, bien sûr, où le SIB était encore la FOBB, ce qui fait aussi une sacrée différence, et que je vois que vos collègues féminines ici trouvent aussi le soutien dont elles ont besoin pour mener cette lutte-là. Et j'aimerais dire aussi que la décision récente du tribunal fédéral a marqué aussi pour moi un incompréhensible et un inacceptable recul. Cela ne doit cependant pas nous décourager. Chers et chers collègues, permettez-moi encore de saluer un rôle essentiel, absolument central, que joue le SIB à la pointe du mouvement syndical pour l'intégration des Suisses et des étrangers dans la vie sociale et dans la vie publique de ce pays. Et j'étais très heureuse de pouvoir participer, d'écouter d'abord du fond de la salle et puis de pouvoir être ici avec mes collègues que je connais bien pour écouter votre débat sur l'intégration. Le SIB n'est pas seulement par sa composition le plus international des syndicats suisses. Il est aussi celui qui nous propose quotidiennement, par sa vie interne, par son action sur le terrain, le modèle d'une Suisse ouverte et fraternelle, où tous auraient les mêmes droits, quelle que soit leur nationalité. Et j'ai vu avec plaisir que le SIB s'emploie à diffuser parmi ses membres les résultats d'une recherche historique sur l'apport de l'immigration au syndicalisme suisse. Cette étude a été réalisée à l'Université ouvrière de Genève par deux amis, Malik von Almen et Jean Steinauer, dans le cadre d'un programme national de recherche sur les migrations et les relations interculturelles. Et cela me fait bien sûr aussi plaisir, en tant que ministre de la Science, cette fois-ci, de me dire que nous pouvons avoir les ressources et dégager les ressources pour poser les vraies questions qui nous intéressent de façon brûlante, entre autres justement ces questions liées aux migrations et aux relations interculturelles, mais aussi je pense à notre collègue qui a présenté cet appel à une lutte plus déterminée contre l'extrême droite et la xénophobie, ou aussi par exemple sur la violence dans notre société et sur les modules que nous sommes en train de préparer pour pouvoir apporter la contribution de la recherche à cet effort auquel vous venez de vous associer à l'unanimité, et cela m'a fait bien plaisir. Les travaux de ce programme sont maintenant en cours de publication et la petite brochure qui vous est distribuée en est un exemplaire, une partie. Mais ces travaux sur le programme de recherche sur l'immigration et les relations interculturelles va encore plus loin. Il est particulièrement important parce qu'il faut que le Conseil fédéral puisse y trouver des bases objectives pour la politique migratoire, qu'il puisse en particulier s'en inspirer pour les mesures favorisant l'intégration scolaire et sociale des immigrés. Plus largement, c'est l'ensemble des acteurs politiques de notre pays qui doit pouvoir trouver dans cette recherche des propositions neuves et des idées créatives, bref, des antidotes qui sont bienvenues au rabâchage des lieux communs nationalistes, des antidotes à ce poison qui menace notre société. Le moment est bien choisi. Le rejet de la dernière initiative xénophobe a levé une hypothèque. Et je sais à quel point, là aussi, nos collègues immigrés, les habitants et les habitantes de ce pays qui viennent d'ailleurs, souffrent chaque fois qu'une telle votation est en discussion dans notre pays et chaque fois qu'ils entendent les arguments de ceux qui considèrent que nous avons trop d'étrangers et qui essaient de monter en épingle tel ou tel événement, mais surtout aussi qui essaient d'attiser tel ou tel mauvais sentiment qui se trouve au cœur de certains membres de cette société. Et je partage avec eux, bien sûr, j'ai partagé avec eux et avec beaucoup d'autres dans ce pays, le soulagement à voir le résultat de cette votation, le soulagement, bien sûr, mais aussi le sentiment qu'une fois de plus, un nombre trop important de nos concitoyens et de nos concitoyennes continue à croire en leur cœur que les problèmes qu'eux vivent ont quelque chose à faire avec la présence parmi nous d'étrangers. Mais nous voulons que la libre circulation des personnes ne soit pas seulement une réalité économique, Nous voulons qu'elle soit une occasion de nous enrichir de nos différences dans l'égalité des droits. Nous avons devant nous un vaste champ de travail politique et vos résolutions montrent bien que vous le voyez aussi ainsi. C'est vous dire que j'ai pris note avec beaucoup de satisfaction justement de cette discussion et de vos propositions. Exiger le droit à une naturalisation automatique et gratuite pour les jeunes étrangers, proposer le droit de vote pour tous les travailleurs, s'élever contre l'interdiction provisoire de travailler faite aux requérants d'asile, c'est assumer pleinement la responsabilité syndicale envers l'ensemble de la société. C'est défendre les droits fondamentaux. Il est donc juste de combattre toute inégalité face au travail, au salaire, à l'emploi, qui serait fondée sur la nationalité ou sur le statut juridique d'un travailleur, et je vous remercie de votre combat. Chers collègues, j'ai confiance dans l'aboutissement des importants travaux que mène ce congrès. Je suis venue vous rejoindre à Lucerne parce que je suis solidaire de votre engagement pour les droits des travailleurs, pour la protection de la santé, pour l'amélioration des salaires. Auprès de vous, je puise un surcroît de courage et d'énergie pour mener la même lutte au niveau et dans le rôle gouvernemental qui sont les miens. Je vous remercie de votre accueil fraternel. Je compte sur votre appui. Vous savez pouvoir compter sur le mien. Bon congrès, bons travaux.
Chers collègues, chère Ruth, par ton discours, tu as démontré encore une fois qu'il te reste l'âme, le cœur et la passion syndicale, que tu ne l'as pas perdue au Conseil fédéral. Et je crois que l'accueil et les applaudissements chaleureux des collègues le démontrent. Nous leur apportons beaucoup d'estime à Ruth pour tout ce qu'elle a fait, notamment dans les deux années 90, pour se battre où elle se trouve contre le démantèlement social. Ruth sait aussi que nous sommes directs et francs avec elle et donc que nous utilisons aussi la possibilité d'une présence à notre congrès pour lui dire aussi ce que nous déçoit ou celles que sont nos préoccupations. Alors j'aimerais exprimer une déception parce qu'elle a été formulée hier par un délégué et exprimer une préoccupation. Alors hier, un délégué m'a accusé de ne pas avoir exercé suffisamment de pression sur toi dans le choix du président de la Banque nationale. Effectivement, le mouvement syndical n'a pas apprécié ce choix d'un candidat qui, en fait, avait une responsabilité assez importante lors des années 90, au milieu des années 90, lorsque la Banque nationale a fait une politique catastrophiste. Non fonctionne. Ah, porca miseria. La Banque nationale a fait une politique catastrophique. En fait, nous avons fait assumer notre rôle comme USS. Contrairement aux camarades Yost et Bodenman, nous n'étions pas d'avis de faire de cadeau à la Banque nationale, de donner un de nos meilleurs hommes, Serge Gaillard. Nous préférons le garder dans le mouvement syndical. En fait, c'est surtout la sensibilité allemande, et on l'a constaté aussi au niveau de de la représentation socialiste dans la Banque nationale qui mettait plus de poids à cette présence minoritaire que à l'orientation elle-même de la politique syndicale. La deuxième préoccupation, la deuxième chose que j'aimerais te dire, Ruth, peut-être que je devrais lui dire aussi ça un jour, en tant que président de parti, c'est au sujet de la 11e révision de la VESES. Comme elle est prévue, elle est pour nous un démontage social inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter la suppression de la rente de veuve et nous ne pouvons pas accepter une solution de retraite flexible qui n'est pas accessible aux travailleurs que nous représentons, notamment aux travailleurs des catégories les moins privilégiées. Je voulais montrer un transparent de l'étude Uzel-Guberan qui a été citée par Ruth Dreyfus et qui montre que, en fait, les travailleurs du bâtiment, il n'y en a que le 57% qui arrivent à l'âge de la retraite. Les autres, ou bien ils meurent, ou bien ils deviennent invalides. Pour les architectes, par exemple, ce chiffre est de 85%. Or, ce tableau montre que, justement, ce sont les catégories de travailleurs qui travaillent dur et qui ont les salaires les moins bons, qui finissent par mourir avant et qui finissent par avoir des veuves dans une situation difficile. Je crois, Ruth, que nous ne pouvons pas soutenir les propositions qui sont faites dans ce domaine et que nous sommes obligés, dans cette affaire, rente de veuve et retraite flexible, d'être très déterminés dans le combat. Nous combattrons une mauvaise 11e révision de l'AVS. Nous le ferons par tous les moyens. Merci.